Bondy Blog Café.
www.bondybloccentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus 88.3. C'est Daniel Begdad au micro. Nous sommes le 22 mai 2020. Cette émission a été enregistrée en différé. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Pierre Polac. Jean-Pierre Polac que vous connaissez très certainement si vous êtes de fidèles auditeurs de Pause Poésie, l'émission de poésie diffusée tous les vendredis à 14h sur votre antenne préférée du 88.3. Si j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Polac aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie de son livre, de son recueil de poésie, La statue de Jeanne. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors voilà, ce recueil vient de sortir, La statue de Jeanne. Pourquoi avoir sorti ce recueil ?
Alors voilà, c'est presque un peu prétentieux de vouloir faire des poésies sur Jeanne d'Arc quand on sait que Charles Péguy, beaucoup d'autres, Leonard Cohen, Joan of Arc, ont écrit sur Jeanne d'Arc. Mais voilà. Jeanne d'Arc est un personnage historique qui m'a toujours embarrassé parce que j'ai le sentiment qu'on n'a jamais su véritablement, sauf quelques historiens récents, dont Madame Beaune par exemple, dont j'ai lu les livres, on n'a jamais su véritablement traiter le sujet avec objectivité. Grosso modo, pour caricaturer, il y a deux clans. Il y a les clans mystiques, croyants, qui font de Jeanne la Sainte, qui répond à l'appel de Dieu, qui a demandé de délivrer la France des Anglais. Et puis, il y a les esthètes laïques qui sont prêts à contrecarrer, à combattre Jeanne d'Arc, à la tourner en dérision. Je crois que les deux sont excessifs. Moi, je voulais avoir, puisque je suis à Orléans, je suis pas natif d'Orléans, je suis pas un Orléanais, mais puisque j'habite à Orléans, j'ai toujours été fasciné par ce personnage-là, par cette statue de la place du Martroi, et il m'est arrivé comme ça devant cette statue de laisser un peu mon esprit divaguer, et puis j'ai continué à construire dessus, et j'ai réalisé ce poème, qui est un peu long, qui ne fait pas tout le recueil, mais qui est quand même long, et qui est, on peut dire, une espèce... D'abord, ce n'est pas un pamphlet, ce n'est pas un panégyrique, ça c'est clair, mais c'est une rêverie poétique sur le destin de Jeanne, non pas la personnalité de Jeanne d'ailleurs. Qui connaît la personnalité de Jeanne ? Personne, véritablement, n'a pu décrire la personnalité de Jeanne. En revanche, moi je m'attarde surtout sur tout ce que... L'après-Jeanne, c'est-à-dire cette récupération éhontée. Je fais remarquer les contradictions de l'Église qui a organisé le procès, l'a brûlé et puis ensuite l'a réhabilité. Et puis ensuite les rois, parce que l'attitude du roi Charles VII a été extrêmement ambiguë avec Jeanne. D'abord, il l'a laissé peut-être partir et puis après, il l'a récupéré. Et puis ensuite, les rois de France l'ont récupéré. Et puis ensuite, la République l'a récupéré. Et puis ensuite, l'État français de Vichy l'a récupéré. Et maintenant... Tous les 1er mai, l'extrême droite défile devant sa statue. Donc c'est ce drame-là que je me suis efforcé de mettre en vers, en essayant de donner mon sentiment, non pas sur Jeanne, mais finalement le malheur de Jeanne, c'est plus encore que le bûcher qui a été une atrocité, mais c'est la façon dont le personnage a été récupéré et est toujours récupéré. Et c'est un peu ça que je voulais évoquer dans ce long poème.
Alors, en t'écoutant, on a bien compris que ce n'est pas un regard d'historien que tu portes sur la pucelle d'Orléans, mais plutôt le regard d'un poète. Tu nous parles d'un sentiment qui serait proche peut-être de celui de l'injustice, un sentiment d'injustice par rapport à cette récupération du mythe de Jeanne d'Arc.
Oh, je sais pas, injustice, moi c'est surtout cette espèce de jeu de marionnette autour d'elle quoi que je voudrais décrire, cette façon dont les uns l'ont après l'avoir ordonné sa mort pour hérétique en ont fait une sainte. Voilà, ça m'interpelle quand même, je voudrais dire des choses là-dessus, et puis bon, toute cette récupération de Jeanne, l'ambiguïté qu'il y a toujours autour de Jeanne d'Arc. Donc c'est pas un poème qui loue la personne, c'est un poème de réflexion sur mes réflexions personnelles qui sont certainement partagées par beaucoup de gens, autour du destin de ce personnage historique et peut-être autour de notre destin. Il y a ce que nous sommes, il y a ce que nous laissons, il y a ce que nous sommes, il y a ce que les gens font de ce que nous avons été. Et c'est un peu le drame de Jeanne. Injustice, non, je ne sais pas. Moi, je crois que cette jeune femme était poursuivie par une foi messianique en elle, certainement. Ça, je pense que les historiens l'attestent. Mais voilà, c'est tout le reste qui m'interpelle, tout le reste qui m'interpelle.
La statue de Jeanne est autre vers des temps anciens.
Oui, parce que j'aurais bien aimé faire un recueil uniquement avec ce poème-là, mais ça faisait un peu court quand même. Hein. Il ne fait que, c'est un peu honteux de dire ça, il ne fait que 20 pages. Donc il fallait compléter. Alors j'ai complété avec d'autres choses qui ont un point commun peut-être, c'est de faire référence au passé. La deuxième partie du recueil s'intitule « Les voies de Talcy ». Alors c'est complètement différent. Il s'agit d'un petit manoir, Talcy, qui se trouve à deux pas de Beaugency, qui ne paye pas de mine, qui n'est même pas vraiment répertorié parmi les grands châteaux de la Loire, parce qu'il n'y a aucune curiosité architecturale. Mais c'est sans doute là que Ronsard a écrit « Mignonne, allons voir si la rose ». Et c'est là que Agrippa d'Aubigné, avant de partir en guerre avec son poème Les Tragiques, a lui aussi filé la parfaite amour avec non pas la même fille que Ronsard, mais de la même famille, la famille des Salviati, le banquier lombard qui était propriétaire de ce manoir. Donc j'y suis allé et il y a une atmosphère assez curieuse dans ce manoir. Et je me suis laissé un petit peu aller à la rêverie. Et puis j'y ai mêlé aussi, parce que je suis toujours extrêmement immodeste, mon histoire personnelle. Donc c'est cette alternance. Alors là, c'est complètement différent. La statue de Jeanne est en vers libre, plutôt des vers courts, libres qui s'enchaînent. Là, c'est plutôt ce sont des vers, des octosyllabes, répartis en quintiles, strophes de cinq vers, comme Apollinaire dans la chanson du Mal-aimé, hein, n'hésitons pas, hein, et qui écrivent cela. Donc, vers un autre temps, parce que c'est une réflexion, là aussi, sur le passé, et puis sur le présent, rêverie, voilà. Il y a les amours de Ronsard, il y a les miens, voilà.
Et puis, des balades ?
Alors, la balade, c'est un genre que j'aime beaucoup, parce que quand j'étais étudiant, et puis les amis qui écoutent Pause Poésie le savent bien, un de mes maîtres outre Apollinaire, c'est François Villon. Et François Villon est celui qui a popularisé le plus la ballade. Au XIXe siècle, un poète moins connu, dont j'aime bien parler, et que j'espère, pour lequel j'espère faire une séance spéciale de Pause Poésie, c'est Jean Richepin, qui a écrit lui aussi des balades en style moderne. Alors j'ai voulu refaire, vous voyez, je suis vraiment dans l'orgueil complet, j'ai voulu refaire à la façon d'un Richepin des balades en respectant le plus possible les règles anciennes, c'est-à-dire trois couplets et puis avec un vers refrain et un envoi à la fin au prince ou à la muse ou à qui l'on veut. Et avec, bien sûr, des problématiques plus modernes. Donc c'est pour ça, vers des temps anciens, parce que la ballade est une référence aussi à un genre médiéval et renaissance.
Alors, François Villon, à qui tu avais consacré une émission. Hein.
Ah ben oui, bien sûr. Bien je sûr. Pense même que j'ai commencé Pause Poésie par François Villon, étant donné qu'il y avait une coïncidence entre Villon et la région. Puisque Villon a séjourné, entre guillemets, hein, a séjourné au château de Main, dans les prisons du château de Main, sous la férule de l'évêque d'Orléans, Thibaut d'Aussigny. Et il a été soumis à la torture. Et il a été libéré grâce au passage du dauphin, c'est-à-dire le futur Louis XI, dans la région, puisque Louis XI, on le sait bien, puisqu'il est enterré à Cléry, aimait beaucoup l'abbaye de Cléry et il y passait. Et en passant à Beaugency, à Main-sur-Loire, donc il a suscité ainsi la libération des condamnés, dont François Villon.
Et tu conclus par des annexes avec trois poèmes en vers libre qui évoquent ta ville de cœur, Lyon, dont tu es originaire.
Ah oui, je suis lyonnais. Je commence à beaucoup aimer la région dans laquelle je vis depuis l'an 2000. Et Orléans, maintenant que je suis devenu vraiment orléanais, j'ai un regard beaucoup moins critique que je l'avais sur Orléans, qui est une ville qui évolue bien, vraiment bien, notamment les vieux quartiers, les bords de Loire, et ça devient une ville très agréable. Donc, mais malgré tout, je peux rester à Orléans encore 20 ans, j'espère le plus longtemps possible, je resterai toujours lyonnais, ma ville de cœur, ma ville, c'est Lyon. Et d'ailleurs, si on entend bien quand je parle, même dans les émissions Pause Poésie, on peut discerner mon accent lyonnais qui ne me quitte pas.
On va en revenir à Jeanne. J'imagine qu'en écrivant ces vers, tu as dû rentrer en proximité étroite avec l'esprit de Jeanne, certainement, je ne sais pas.
Oh, l'esprit, non, parce que moi, on le sait, hein, je ne suis pas du tout mystique, je suis même ce que l'on appelle un athée. Donc vraiment, c'est pour ça que cette histoire de Dieu qui demande de libérer la France, ça, moi, ça me, c'est pas possible, quoi. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter, c'est pas ça. Alors Jeanne est un personnage historique qui a existé, qui a été attesté, qui a vécu le martyre du bûcher, il faut quand même pas l'oublier, c'est une mort absolument horrible qu'on lui a fait subir, ne l'oublions jamais. Hein. Et... C'est cela qui m'a intéressé. Pour le reste, l'appel divin, je laisse ça à d'autres. Moi, c'est pas mon rayon.
Je sais pas, j'imaginais que tu te l'étais imaginé, c'est ça que je voulais dire, en tant que poète, en tant que rêveur.
Oui, un petit peu. Bon, il y a un passage où j'ose l'imaginer en me demandant si je l'avais rencontrée, si j'étais poète, si elle aurait abandonné l'armure, si elle aurait abandonné la guerre pour se laisser aller à la rêverie et à l'amour, pourquoi pas. Voilà, mais c'est juste un petit clin d'œil. Voilà.
Non. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le caractère qu'elle aurait selon toi ?
Oh, ben, je sais pas, moi je me fierais aux historiens, notamment Madame Beaune, qui je pense est la plus crédible actuellement au niveau de la description de Jeanne, parce que justement elle expurge tout le mystique pour se contenter du fait historique et des analyses historiques. Bon, je pense que Jeanne était comme le Moyen-Âge l'était, hein, extrêmement mystique et croyante. Et que oui, elle s'est levée comme ça, poussée par cette espèce de foi qui était en elle. J'en suis absolument certain. Je pense que ça, c'est pas contestable.
Moi, je suis curieux de savoir ce que ton regard de poète peut nous apprendre sur Jeanne.
Ah, moi, je n'apprends rien sur Jeanne. J'essaye de montrer comment ensuite on a tenté de la récupérer. Et c'est de montrer les contradictions des récupérations, parce que dans Jeanne, il y a un côté qui, dans ma personnalité, qui devrait me plaire, parce que Jeanne, c'est la rebelle. Moi, je dis parfois que dans le poème, je dis, mais dans le fond, tu es Antigone qui se lève contre tous les créons de tous les acabis. Et Jeanne, c'est l'appel à la résistance. Et je peux évoquer à la résistance, puis je joue sur les mots unis à Charles dans la messe du temps, parce que Charles VII et Charles de Gaulle pour la résistance. Donc il y a tout cela, effectivement. Et puis, bon, je termine par, malheureusement, la dernière récupération, celle qui me fait le plus mal, celle contre laquelle je suis prêt à m'élever, c'est-à-dire la récupération de l'extrême droite, qui fait de Jeanne celle qui repousse l'étranger. Et là, c'est autre chose. Mais elle n'y est pour rien. C'est pas de sa faute, la pauvre. C'est bien ce que je dis, je sais, cela ne te ressemble pas, je sais. Mais en même temps, comment séparer maintenant cette personnalité qui n'existe plus de la traîne qui est restée avec ces crypto-fascistes qui défilent devant et qui vouent un culte à celle-là? Moi, c'est ça qui me gêne. Mais encore une fois, la pauvre, elle n'y est pour rien. Mais voilà, c'est aussi un petit message d'alerte pour dire, bon, attention, ne nous laissons pas dériver de ce côté-là.
Tout à l'heure, tu disais que lorsque tu étais étudiant, déjà, tu baignais dans la poésie.
Oh oui, la poésie m'a toujours touché depuis le début. Je pense que quand j'ai...
Le début, ça remonte à quel âge ?
Adolescence, oui. Adolescence, Je pense que je n'ai pas gardé les vieux textes que j'ai faits, parce que c'était absolument épouvantable. Mais oui, non, la poésie a toujours été pour moi une espèce de soulagement. Soulagement qui me permet de sortir. Je n'ai pas vécu une adolescence terriblement heureuse. Non pas, j'avais toutes les conditions favorables, mais bon, beaucoup de problèmes personnels, beaucoup de problèmes d'identité, qui je suis, où je vais, etc. En plus, j'étais dans un milieu religieux, c'est pour ça que je traite souvent des sujets religieux. J'ai quelque part, peut-être au fond de moi, quelques petits comptes à régler, je ne sais pas. Et tout ça m'a un peu fait une adolescence qui est venue très tardivement. Et la poésie a été finalement le moyen de m'en sortir, de voir autre chose. Certains ont choisi le shit, certains ont choisi la musique, certains ont choisi d'autres choses.
Tu parles de Baudelaire, là.
Moi j'ai choisi la poésie et je suis parti là-dessus. Et puis je pense que ça ne m'a jamais vraiment quitté. J'ai été expatrié pendant très longtemps en Afrique. Là, j'ai écrit beaucoup moins parce que bon, là, je travaillais beaucoup quand même. Donc, il y avait et puis mes problématiques n'étaient plus les mêmes. Et là, j'avais été complètement sorti de mes difficultés internes. Et c'est en 2000, à mon retour en France, que véritablement là, je me suis mis à fond. Alors à fond dans l'écriture, parce que ce qui a été le déclencheur. Ça fait bizarre maintenant parce que ça paraît tellement évident. Bien, c'est la découverte d'Internet. Eh oui, 2000, parce que quand j'étais en Afrique, Internet, j'étais très loin de ça. Et quand je suis arrivé en France, rentré en France, que je me suis acheté mon ordinateur et que j'ai fait ma première connexion, il m'est arrivé de rester jusqu'à 4 heures du matin devant l'écran, fasciné. Et c'est là que j'ai commencé à mettre un jour comme ça sur le moteur de recherche poésie. Et puis j'ai trouvé plein d'adresses, plein de clubs de poésie. Et puis je suis rentré là-dedans. Et puis finalement, en 2004 ou 2007, j'ai adhéré à la Société des poètes français où je suis maintenant.
À ton adolescence, tu lisais de la poésie? Tu en écrivais, mais tu en lisais?
Oui, beaucoup, oui, bien sûr. Qui? J'ai toujours beaucoup... D'ailleurs, encore une fois, les amis qui écoutent Pause Poésie le savent bien. Je fais rarement une émission de poésie sans qu'il y ait trace de Hugo. Qu'on le veuille ou non, qu'il soit agaçant ou pas, j'ai vraiment envie de répondre comme André Gide à qui on posait la question. André Gide, quel est pour vous le plus grand poète français? Et Gide avait l'habitude de répondre, ou du moins il a répondu une fois comme ça, Victor Hugo, hélas. Ben oui. C'est un monument, alors ça gêne. Mais oui, moi, tout petit, j'ai appris par cœur Waterloo de Victor Hugo. J'étais passionné par ça. Mmh. Waterloo, Waterloo, morne pleine, comme une onde qui boue sur une urne trop pleine. Dans ton cercle de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. Voilà, j'apprenais ça par cœur. J'étais passionné par ça. Le Victor Hugo m'a toujours séduit. Et puis, après, je me souviens, il y a eu un autre déclic. Et ça, ce déclic vient souvent comme ça. C'est un professeur de la classe de 5e qui un jour nous fait travailler un texte qui s'appelait Les Sapins. Les Sapins, pas terrible. Et puis, pour présenter ce texte, il a dit, voilà, moi je vous présente ce texte parce que j'ai envie de me faire plaisir. Pour moi, c'est le plus grand poète français. Et Les Sapins, c'est un poème d'Apollinaire. Et ça a fait un déclenchement chez moi. Et Apollinaire, Apo, comme je dis souvent pour moi, ne m'a plus quitté jusqu'à maintenant.
Alors, c'est vrai qu'il est un peu agaçant, Victor Hugo, l'évidence de ses rimes, cette fluidité aussi dans la poésie. Tout à l'heure, tu nous disais que tu avais quelques petits problèmes à régler avec la religion, que tu étais athée. Il me semble pourtant, moi, que le poète voit au-delà du monde, voit au-delà que le regard du poète dépasse l'essence des choses.
Oui, alors là, si tu veux m'emmener vers le sens de la poésie, le sens
exactement.
De ça, alors là...
Eh bien, tu as tout compris. Ça serait quoi pour toi, la poésie?
Je crois qu'il n'y a pas une poésie, il n'y a pas un sens de la poésie, il y a autant de sens que de poètes. Moi, la poésie, elle m'a aidé à sortir de moi-même. Et même maintenant, quand j'écris un petit texte qui m'arrive de publier parfois sur les réseaux sociaux... C'est toujours un moment où j'essaye de me dépasser. Je crois que Oui, c'est le dépassement. Alors, c'est, tu vois, moi, je suis athée, donc je refuse la transcendance mystique. Mais quelque part, quelque chose qui te permet de te dépasser toi-même, ça revient à être une transcendance. Donc oui, je veux bien admettre que la poésie, l'art en général, est une transcendance qui permet à l'homme de repousser ses limites et d'être autre que ce qu'il est, simplement son enveloppe de chair. Tout ça, c'est très prétentieux. Mais voilà, en tant que petit poète local, je me mets quand même dans cette immense dynamique-là. Et quelque part, oui, c'est ça, on a... c'est un moment pour sortir, écrire autrement. Parce que j'écris de la prose aussi. Quand on écrit de la prose, bon, on écrit pour être dans l'explicite. La poésie, à mon avis, ça je le dis souvent dans Pause Poésie, elle ne doit pas être dans l'explicite. Elle ne cherche pas à expliciter. Sa communication, parce que c'est une communication, tout acte écrit est un acte de communication. Même si personne ne le lit, c'est quand même un acte de communication. Donc la poésie est une communication qui cherche à dépasser le langage, à aller au-delà du langage. On ne cherche pas à écrire le narratif, on cherche à exprimer, à se mettre ensemble des mots qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble et qui brusquement, là, par une nouvelle alliance, crée quelque chose de neuf qui échappe à l'entendement et qui provoque quelque chose. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup jouer sur les mots, parce que c'est pas forcément gratuit. Alors, parfois ça a l'air un peu gratuit, mais jouer sur les mots, ça crée des rapprochements de sonorités, de sens qui permettent d'avoir justement cette autre communication qui n'est pas une communication explicite, qui dépasse le langage habituel et qui aboutit à une communication de quoi ? D'émotion, de ressenti, d'impalpable. Et peut-être que c'est une vraie communication.
Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Donc, merci pour cette définition. Sortir de soi, une transcendance, on est dans un processus individuel. Je voudrais savoir, moi, que peuvent apporter les poètes à notre monde ? Toi, Jean-Pierre, par exemple.
Oh, alors moi, vraiment, je n'aurais aucune prétention.
Alors, je vais déjà donner un élément de réponse, hein, ben, des recueils. Hein,
oui, d'accord.
De la poésie, bien évidemment, la statue de Jeanne et autres vers des temps anciens.
Qui, mais... j'espère, sera bientôt disponible dans une librairie d'Orléans. On vous tiendra au courant, mais pour l'instant, je suis en négociation.
Qu'est-ce que les poètes peuvent apporter à notre monde ?
Moi, je me méfie beaucoup quand on veut donner aux poètes un rôle dans le monde. Certes, Victor Hugo pensait ça. Hein,
il en a joué en France, dans la politique française.
Écoute, le rêveur sacré, etc. Oui, Victor Hugo avait une haute conscience de son rôle. Oui, mais alors justement, c'est là. Tu me dis, il est entré dans la politique. Oui, mais alors il n'était plus poète. Voilà, donc si...
Il restait dans son âme, il restait
oui,
poète.
Oui, bien sûr.
C'était enfin, la même personne.
Il était quand même dans la politique, au nom de valeurs. D'ailleurs, la politique ne lui a pas toujours rendu les choses. Hein, n'oublions pas que Victor Hugo, par exemple, moi c'est ce que j'aime beaucoup chez ce personnage-là, c'est le seul en France qui se soit élevé contre la répression contre la Commune de Paris. Et il l'a payé cher, parce qu'aux élections suivantes, il a été battu à plate couture à cause de ça. Donc qu'est-ce qu'une poésie peut apporter au monde ? Écoutez, si une poésie permet à quelqu'un, quand il la lit, de se transporter ailleurs, d'avoir un moment de rêverie, un moment de sentiment du beau, de se dire, bah oui, il y a quand même des belles choses. Eh bien, voilà. Alors, dans ce cas-là, on n'aura pas manqué à notre message. Mais bon, faut rester modeste. Hein. Le monde, si on pouvait le transformer, il ne serait pas exactement comme il est maintenant.
Alors, sans forcément dévoiler ton intimité, mais tu as exercé une fonction professionnelle où tu étais proche de la jeunesse, cette jeunesse dont tu parlais tout à l'heure, qui malheureusement peut, en crise d'identité à l'adolescence, se réfugier dans des paradis artificiels, et peut-être qu'elle gagnerait justement à sortir d'elle-même, à partir enquêter sur son identité grâce à la poésie. Comment est-ce que tu pourrais encourager les jeunes à pratiquer la poésie aujourd'hui ?
Alors là, je vais peut-être te surprendre, mais je pense qu'il ne faut pas du tout désespérer de la jeunesse et de la poésie, parce que dans les années 90, est né en France et dans le monde, parce que ça a commencé par d'abord la Jamaïque, puis les États-Unis pour la France, le rap. Alors le rap, on peut dire beaucoup de choses sur le rap, et puis le slam. Mais quelque part, c'est redonner aux jeunes le goût au moins de la rime, au moins du rythme, au moins du mot écrit, au moins de la parole. Donc dans le rap, il y a tout. Il y a tout et le contraire de tout, comme en poésie, hein, comme dans toute l'écriture. Mais il y a un rap de très grande qualité. Moi, mes références sont un peu vieilles maintenant, mais bon, moi, j'aimais beaucoup MC Solar, j'aimais beaucoup IAM, qui pour moi, Akhenaton, est un authentique écrivain. Même NTM, ils ont eu des grands textes, je pense à Ne laisse pas sortir ton fils, qui est quand même une référence. Et là, il y a de l'écriture. Et je pense que ces gens-là ont eu une influence très forte sur la jeunesse, et que justement, par là, moi, si j'étais en classe maintenant, j'utiliserais l'entrée du rap ou du slam pour, après, les ramener vers Ronsard et vers les autres pour leur dire, voyez, tenez, finalement, Grand Corps Malade, voyez, il a écrit ça, mais regardez Ronsard, il a écrit ça aussi. Et créer cette passerelle-là, parce qu'il y a une passerelle, parce que quelque part, c'est une poésie de maintenant, on peut critiquer beaucoup, on peut dire des tas de choses, mais néanmoins, elle accroche, elle a permis aux jeunes de retrouver le sens de l'écrit, et moi, je ne suis pas complètement désespéré de cela.
Eh bien, c'est super. On ne peut qu'encourager la jeunesse donc à se saisir d'un stylo. C'est d'un
stylo et de papier. Je crois bien que toi, tu travailles dans ce sens-là. Donc,
mais bien sûr, mais voilà, bien sûr. Bah oui. Et c'est un art qui est très accessible. Alors, on pourrait déjà parler des bibliothèques de rue dans lesquelles on peut trouver forcément. On trouvera de la poésie. Et puis, au prix d'une rame de papier et d'un stylo, c'est vrai que c'est un art qui est accessible à tous.
Hein. Tout à fait.
D'accord. Contrairement à d'autres. On va dire, je ne sais pas si on pensait à une lyre ou quelque chose comme ça, où ça peut être plus compliqué. Merci Jean-Pierre, tu vas nous donner des références parce qu'il y a un blog sur lequel on peut voir tes productions.
Oui, j'ai un petit blog personnel qui s'appelle Mots divers, jeu de mots à la clé bien entendu, et l'adresse c'est jppau.wordpress.com. Voilà.
Tu viens de sortir ce recueil, mais ton actualité ne se limite pas à ce recueil. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur quoi tu travailles en ce moment ? Quels sont tes projets à venir ?
Alors, j'ai édité, donc mes poésies sont éditées avec les éditions des poètes français, c'est-à-dire les éditions de la Société des poètes français. Alors bon, il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais je travaille dans les éditions de ces manuscrits-là. Mais bon, celui-là, je l'ai fait lire par d'autres. Hein. Ce n'est pas moi qui me suis édité moi-même, jamais. Donc, la poésie est éditée à la Société des poètes français parce que j'y suis, parce que c'est ma maison de poésie, donc c'est normal que je travaille avec eux. Et puis, ils me donnent la possibilité d'organiser des sessions à Paris quand on pourra se rencontrer à nouveau, et des présentations et des lectures publiques que j'aurai l'occasion de faire à Paris. En revanche, j'ai écrit et publié à l'heure actuelle 6 romans. Aux éditions du Cygne, qui est une très bonne maison d'édition, mais qui n'a pas la diffusion de plusieurs autres maisons d'édition, qui n'a pas Pignon sur rue. Je ne veux pas parler des problèmes de l'édition ici, parce que c'est extrêmement compliqué. Néanmoins, on peut les trouver sur Internet sans problème. Et le confinement aidant, je me suis remis à la prose, et je viens de finir donc mon 7e roman, qui est une espèce d'hommage que je rends à un grand roman qui m'a marqué quand j'étais étudiant, que j'ai pris, que j'ai pu lâcher, qui s'appelle « La modification » de Michel Butor. Michel Butor qui est décédé il y a quelques années, qui était poète aussi d'ailleurs, il était écrivain et poète. Et ce roman m'a toujours bouleversé, si bien que j'ai voulu en refaire un peu à ma façon. La modification, c'est un homme qui prend un train de Paris à Rome. Paris, il a sa femme, Rome, il a sa maîtresse, il y va pour travailler. Pendant le voyage en train, il renonce à aller voir sa maîtresse. Donc, d'où la modification. Alors moi, je suis maintenant, je suis divorcé, plus marié, donc passons. Mais je prends souvent le train pour aller à Paris pour... enfin, je prenais, hein, j'espère le reprendre bientôt, avec une autorisation de plus de 100 km, d'aller à Paris pour travailler à la Société des poètes français. Et j'ai imaginé donc quelqu'un qui partait d'Orléans à Paris pour aller à un rendez-vous amoureux à Paris, étant sûr que ce rendez-vous-là va être le bon rendez-vous, ça y est, etc. Et puis, en se remémorant plusieurs histoires de sa vie pendant le voyage, à la fin, il ne va pas au rendez-vous. Voilà, et je vais essayer de l'envoyer aux éditeurs de la modification, je vais voir comment ça va se passer, et j'ai bien mis que je mettais ce petit récit en hommage à la modification de Michel Butor. Et puis, je me suis lancé dans une aventure plus personnelle, qui est en route là et qui sera terminée. Je pense que ce sera terminé avant l'été. Le titre provisoire pour l'instant, c'est « Journal d'un amour confiné ». Et là, c'est en prise directe avec le confinement. Et c'est une espèce de roman épistolaire par SMS, avec plusieurs choses... voilà, je n'en dirai pas plus. C'est un roman, hein, donc n'allons pas chercher de l'autobio, s'il vous plaît. Hein, c'est un roman, mais faire une espèce de... avec de l'écrit, une relation qui se serait créée pendant le confinement, qui a éclaté pendant le confinement, donc virtuel, complètement virtuel, et qui n'a pas vécu au-delà du confinement. Voilà.
D'accord, tu te saisis même des nouveaux moyens de communication pour ton écriture alors ?
Ah bah oui, bien sûr.
Forcément, le poète ne pouvait faire l'impasse.
Un roman épistolaire maintenant, mais on fait tous des romans épistolaires. Et regarde les SMS qu'on envoie.
Oui, bien sûr.
Prends tous les SMS que tu as. Moi, je me suis amusé à collecter des SMS. Je les ai mis sur l'ordinateur, ça fait plus de 40 pages. Donc, il y a de la matière.
Ça va, tu arrives, toi, à taper avec tes deux doigts quand
non,
même.
Non, j'ai du mal, je me trompe tout le temps, c'est épouvantable, c'est affreux.
Excuse-moi, mais une question que je ne t'ai pas posée, comment tu écris, sur un clavier, sur du papier ?
Alors, voilà, même si je suis du XXe siècle, je suis complètement adapté à la modernité et je ne travaille que sur ordinateur. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur... quelque part, c'est un brouillon toujours propre. C'est-à-dire qu'on peut remodeler à l'infini. Le danger, c'est de se dire « Stop, là c'est fini maintenant ». Et non, on a toujours quelque chose à corriger. Donc voilà, en revanche, par exemple, quand j'écris un roman, là, bon, le roman que j'ai terminé, je l'imprime une première fois. Et là, je me mets assis sur une table avec un crayon rouge et je rature, je biffe, je retravaille. Il me faut quand même une étape papier qu'après je transfère sur l'ordinateur. Et après, je refais une troisième lecture. Puis après, je m'arrête parce que je me dis, bon, maintenant, soit c'est vraiment mauvais, tu ne pourras rien faire, soit tu arrêtes là, quoi. Mais voilà, mais il y a toujours une étape papier quand même. Ça me coûte cher en imprimante. C'est ça le problème, surtout en cartouche. C'est pas cadeau.
Merci Jean-Pierre. Donc, je rappelle, La statue de Jeanne et autres vers des temps anciens, déjà édité
aux éditions Les Poètes Français.
Voilà.
Et j'espère bientôt disponible dans une librairie d'Orléans. On est en négociation, on va vous en parler dès que ce sera disponible.
Les librairies d'Orléans dans lesquelles il faut vous rendre justement pour vous procurer des choses à lire. Plutôt que par Internet, dont on a beaucoup vanté les multiples intérêts dans cette émission. Mais il faut continuer d'aller voir ces commerçants avant qu'ils ne meurent.
Oui, c'est pour ça que je
veux
vraiment avoir un partenariat avec eux. Bon, c'est difficile pour eux parce que c'est des livres que j'ai. Ils l'ont déjà fait pour mon précédent recueil, Éphéméride, qui était en dépôt dans une librairie d'Orléans. C'est Chantelivre, hein, je veux dire. Alors, j'aimerais bien que ce soit Chantelivre parce qu'ils sont juste en face de la statue qui est en photo dans la couverture.
Merci Jean-Pierre.
Merci Daniel.
Et donc, je rappelle à nos auditeurs auditrices que vous pouvez vous replonger dans toutes les émissions Pause Poésie précédentes en allant à la page Les Émissions. Vous cliquez sur le lien du vendredi et à 14h, donc, vous trouverez Pause Poésie. Et donc, vous pourrez vous replonger dans toutes les émissions, notamment celles consacrées à François Villon ou encore à Pau.
Apollinaire.
Comme tu dis. Merci Jean-Pierre.
Merci Daniel.
Bondi Bloc Café.
www.bondibloccentre.fr